France Culture.
Le journal de la rédaction. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à toutes et à tous. Alexeï Navalny, empoisonné en prison par le régime russe. Les conclusions d'une enquête menée par 5 pays, dont la France, révélées aujourd'hui. Le Quai d'Orsay dénonce les méthodes du Kremlin. 200 000 manifestants se sont réunis à Munich pour dire non au régime des Mollahs en Iran. Le rassemblement se tenait en marge de la conférence sur la sécurité. Enfin en France, le barème des aides à l'embauche pour les apprentis revu à la baisse. Les grandes entreprises sont les premières touchées. Alexeï Navalny, mort en prison en 2024, a bien été empoisonné par la Russie. C'est ce qu'affirment aujourd'hui 5 pays, dont la France et le Royaume-Uni. Une enquête menée conjointement par les deux pays aux côtés des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la Suède confirme que la mort de l'opposant russe est bien liée à un empoisonnement. Les précisions d'Éric Biegala.
Oui, cet empoisonnement est la conclusion à laquelle sont parvenus nos gouvernements après analyse des échantillons prélevés sur Alexeï Navalny, indique le communiqué commun. Et de poursuivre, ces analyses ont confirmé de manière concluante la présence d'épibatidine, une toxine présente dans les grenouilles venimeuses d'Amérique du Sud et qui n'existe pas à l'état naturel en Russie. Fin de citation. Alexeï Navalny avait fait l'objet d'une première tentative d'empoisonnement en Russie en août 2020 à l'aide d'un produit neurotoxique très violent, le Novichok, développé par les services de sécurité soviétiques pendant la guerre froide. Évacué en urgence et soigné en Allemagne, l'opposant russe avait finalement décidé, une fois guéri, de rentrer en Russie où il avait été arrêté à sa descente d'avion et immédiatement incarcéré. Le communiqué des quatre chancelleries indique par ailleurs que ces dernières découvertes soulignent une fois de plus la nécessité de tenir la Russie responsable de ces violations de la Convention sur les armes chimiques et dans le cas présent de la Convention sur les armes biologiques et à toxines avant de promettre d'utiliser tous les leviers politiques à leur disposition pour continuer à demander des comptes à la Russie.
Et nous savons désormais que Vladimir Poutine est prêt à utiliser l'arme bactériologique contre son propre peuple pour se maintenir au pouvoir. De son côté, réagit sur X le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Des déclarations en marge de la conférence sur la sécurité qui se déroule en ce moment à Munich où cet après-midi, des centaines de drapeaux iraniens ont flotté dans les rues. Environ 200 000 personnes se sont réunies pour manifester contre les autorités iraniennes. Une manifestation pacifique à l'appel notamment du fils du dernier Shah d'Iran, Reza Pahlavi. Le reportage à Munich de Sébastien Baer.
Des milliers de drapeaux ornés du lion et du soleil, les symboles de la monarchie et des portraits de Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran, renversé en 1979. Le champ de foire qui accueille chaque année la fête de la bière et noir de monde, Chep, iranien de Hambourg, a dessiné le drapeau vert, blanc, rouge sur sa joue.
Nous devons soutenir les 90 millions d'Iraniens et être leur voix. On essaie de leur envoyer les images de la mobilisation via les réseaux sociaux pour leur donner du courage et de l'espoir. Ils doivent savoir que nous sommes à leur côté et qu'on ne les laisse pas tomber.
Les manifestants viennent de l'Europe entière. Exilé en Hongrie, Marchid appelle Donald Trump à l'aide.
C'est notre dernier espoir de retrouver notre liberté. Bien sûr, personne ne veut la guerre parce que des civils innocents seront tués. Mais que devrions-nous faire ? On a plus peur du régime que d'une intervention étrangère.
Dans le rassemblement, beaucoup souhaiteraient voir Reza Pahlavi jouer un rôle. Il est loin de faire l'unanimité dans la diaspora, mais Maria lui fait confiance.
Il a prouvé qu'il respecte la démocratie. C'est celui qui a le pouvoir de nous rassembler tous sous le même drapeau. Il ne sera pas roi ou président, simplement il nous guide dans cette période de transition.
Être un leader de transition, c'est ce qu'a promis Reza Pahlavi en fin d'après-midi, lors de son apparition surprise devant ses partisans.
Sébastien Baer, tandis que dans l'enceinte de l'hôtel où se déroule la conférence de Munich sur la sécurité après le discours du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio qui a appelé les Européens à se ranger derrière la vision de Donald Trump sur l'ordre mondial, Volodymyr Zelensky s'est lui aussi exprimé à la tribune. Pas une centrale électrique épargnée par les frappes russes, a dénoncé le président ukrainien. Il a également appelé à des livraisons de missiles plus rapides pour les systèmes de défense aérienne ukrainiens fournis par les Occidentaux. Emmanuel Macron en a fait l'un des marqueurs de sa politique économique depuis son premier mandat. Les aides à l'apprentissage. Depuis 2018, ce coup de pouce a permis de doubler le nombre d'apprentis en France. Mais le contexte budgétaire dégradé de ces trois dernières années a eu raison de cette politique généreuse à l'égard des entreprises. Après un premier coup de rabot, en 2025, le gouvernement taille de nouveau dans les aides. Valentin Gris, un décret pour abaisser les aides à l'embauche devrait être publié dans les prochains jours.
Le décret n'est pas encore public, mais les arbitrages sont tranchés avec deux inflexions majeures. On recentre les aides sur les apprentis peu diplômés. Rien ne change pour les apprentis préparant un bac pro, un BEP ou un CAP. 5 000 euros de prime à l'embauche pour les petites entreprises, moins de 250 salariés. 2 000 euros au-delà. En revanche, coup de rabot massif sur les étudiants préparant une licence ou un master. 2 000 euros pour les petites entreprises, 750 seulement pour les grandes. On le comprend, c'est l'autre choix forfait par l'exécutif. Les grandes entreprises sont plus touchées par ces coupes. L'année dernière déjà, elles avaient vu fondre les primes de 6 000 à 2 000 euros, quel que soit le niveau de l'étudiant. Des choix que comprend et soutient Michel Picon, président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité.
Mais bien sûr, ça a du sens. Toutes ces grandes boîtes, quand elles prennent un jeune ingénieur qui a déjà un bon niveau de formation, il est tout de suite opérationnel pour elles. 5 000 euros pour Safran ou pour Dassault ou pour Air France, franchement, je pense que la contribution à la formation des jeunes pour ces grands groupes est un devoir, à mon sens.
Un avis évidemment pas partagé par tous. La fédération Syntec, qui représente le secteur du numérique, a ainsi fait part de son inquiétude. Mais pour le gouvernement, ces aides sont devenues trop coûteuses. 7,5 milliards d'euros pour le seul budget de l'État en 2024, par exemple. Ce nouveau coup de rabot pourrait rapporter 200 millions d'euros cette année, 700 millions l'année prochaine. En espérant que la baisse des aides n'écroule pas le nombre de contrats signés, ils ont baissé de 4,5% en 2025, après le premier resserrement budgétaire.
Deux permanences de la France insoumise ont été dégradées depuis hier. À Metz d'abord, d'après les premiers éléments de l'enquête, un liquide de couleur rouge a été renversé sur la vitrine. L'auteur présumé aurait crié « Justice pour Quentin » du nom de ce militant identitaire gravement blessé jeudi lors d'une rixe à Lyon en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po. À Lille, la permanence du député LFI Aurélien Lecoq a également été dégradée. Les auteurs sont toujours en fuite. Trois pancartes brandies sur la plage de Quiberon pour trois lettres N.O.N. Plus de 1500 habitants se sont réunis cet après-midi sur la principale plage de la Presqu'île pour dire non à un projet de parc éolien en mer. Une douzaine d'éoliennes doivent être installées à l'ouest de Belle-Île. Un projet défendu par l'État et la région Bretagne, mais les élus locaux sont vent debout. Ils demandent une implantation beaucoup plus au large. Reportage de Solène Lehen.
Un paysage, je cite, saccagé. C'est ce que craignent les habitants, les élus et les membres d'associations réunis sur cette grande plage de Quiberon.
Ah non, la côte sauvage est tellement magnifique, c'est lamentable.
On n'a pas envie du tout que notre paysage soit complètement mis à l'envers pour des éoliennes.
Ces éoliennes en mer, une douzaine dans un premier temps, seront installées d'ici 5 ans à 19 km de la pointe des Poulains à Belle-Île et à une trentaine de kilomètres de Quiberon. Chacune mesurera environ 340 mètres de hauteur.
Ces paysages seront saccagés nuit et jour parce que le jour, on ne verra que les ventilateurs géants plus haut que la tour Eiffel sur l'horizon. Et la nuit, il ne faut pas oublier que pour des raisons de sécurité, ils sont obligés de clignoter.
Les éoliennes, on n'en veut pas ! Les éoliennes, on n'en veut pas !
Comme beaucoup, Michaela estime que certes, l'électricité sera verte, ces éoliennes alimenteront 450 000 habitants, mais la France n'en a pas besoin.
En principe, on n'a pas besoin d'électricité de plus, car on en vend déjà aux Allemands.
D'autres, plus nuancés, disent oui aux éoliennes, mais plus loin en mer.
Reportage de Solène Lehen. La carte des vigilances continue de s'étendre ce soir. La situation restera tendue et compliquée sur une grande partie ouest du pays jusqu'en milieu de semaine prochaine, avertit la filiale risque de Météo France, alors que le pays connaît un épisode de crue généralisé qui dépasse les records selon Vigicru. 15 départements sont toujours en alerte, dont deux en vigilance rouge, la Gironde et le Lot-et-Garonne. De nouvelles évacuations préventives autour des rives de la Garonne ont encore eu lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, plus de 170 000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce midi, selon Enedis. Quant au temps, demain matin, 15 départements du nord de la France sont placés en vigilance orange, neige et verglas. Des flocons sont attendus de l'Île-de-France au Nord-Pas-de-Calais. De nombreux vols sont supprimés dans les aéroports parisiens. Des risques d'avalanche toujours importants également. 4 départements des Pyrénées sont placés en alerte orange. Du côté du sud, le temps sera sec et dégagé. Côté température, c'est le retour des gelées. Demain au réveil, il fera 0 degré à Chaumont, 1 à Lille et Metz, 2 à Paris et Rouen, 7 à Toulouse et 13 à Nice. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Alix Forgeot à la technique d'Aliya.